tout juste 20h sur Radio G. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est le mardi 23 janvier 2024. On est effectivement en studio sur Radio G pour cette heure de sport qu'on va passer ensemble avec toute l'équipe qui est au complet. La semaine dernière, il y a eu effectivement deux absents, en la personne de Cédric et moi-même. Et d'ailleurs, bravo à Faustin et Clément qui ont très bien tenu la baraque en notre absence. Là, aujourd'hui, le 4 titulaire, je ne sais pas si ça se dit, est bien présent avec donc Faustin, Clément et Cédric. Je vais commencer par présenter donc ceux qui vont m'accompagner, en commençant par Faustin. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va toujours très bien. J'ai gagné mon match de ce week-end avec... Oh. Une bonne performance de ma part avec 3 points, dont un step back.
Oh là 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 là.
J'ai régalé le public.
Que demande le peuple? Parfait week-end pour toi.
Exactement.
Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Moi ça va bien, ça a été un peu moins glorieux pour moi ce week-end.
Oula.
Puisqu'on a perdu 5-1 contre une des deux.
Aïe.
Bon, le terrain était catastrophique et pour notre défense, on n'avait pas de gardien. J'ai joué gardien une mi-temps.
Oh!
J'ai pris 3 buts.
Aïe.
Dans une boulette un petit peu majestueuse. Bon, on va.
Ce ne sera pas le prochain.
Non.
Le prochain Golioris.
Non,
c'est pas toi, malheureusement.
Bon, voilà. J'aurais dit le prochain Giroud.
Ouais, j'aurais dit ça.
Et effectivement, oui, une reconversion. Ouais, non, t'as eu moins de réussite.
On oublie ce qui s'est passé.
Donc, tu nous rappelles, tu joues à quel poste quand tu es sur le.
Numéro 10 de derrière l'attaquant.
Oh, pas mal. Ouais. Organisateur.
Ouais.
Un peu technique?
Pas tant que ça.
Pas tant que non, ça. Tu organises le jeu un peu.
Ouais.
Tu distribues. Très bien.
C'est ça.
Cédric est également avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Hein.
La forme?
Ouais. Un peu moins de temps ces derniers temps pour être à la radio et puis pour regarder du sport, mais toujours présent quand on peut, quoi.
Évidemment, parce qu'en plus l'actualité est assez riche en ce moment, avec pas mal de choses. On va justement revenir sur le sommaire de cette émission, émission talk assez classique, avec tous les sujets que vous connaissez, notamment au niveau local, avec pas mal d'actualités au niveau du SCO. Le SCO qui joue d'ailleurs ce soir dans à peu près 3/4 contre Quevilly-Rouen. Ça va être un match intéressant à suivre. On vous présentera un petit peu les actualités autour du SCO. On parlera également de basket avec Faustin. Les résultats de l'EAB, de l'UFAB ou encore de Cholet Basket. En plus du SCO Handball et des Ducs d'Angers, on fera aussi un petit point sur la situation de deux autres équipes que nous avons un petit peu l'habitude de suivre, peut-être un peu moins que les autres dans l'émission, les Loups d'Angers, mais également le SO Cholet, un club qui est un petit peu en péril sur cette saison 2023-2024. Au niveau international, on a pas mal d'actu avec le foot, la Coupe de France, la CAN, le tennis avec l'Open d'Australie et pour une fois des Français qui n'ont pas été si ridicules que ça. Faustin, tu nous parleras un petit peu de NBA, avec toutes les récentes actualités. Peut-être que tu nous parleras d'Embiid, qui a fait un très gros score la nuit dernière. Et puis on parlera un petit peu de handball avec les Français qui sont plutôt bons sur cette Euro. Et puis pourquoi pas un petit mot de ski alpin avec cette grosse performance du Français Cyprien Sarrazin lors de la descente. Voilà un peu pour le programme. Bah, écoutez, on va commencer sans plus tarder par le SCO. Et oui, le SCO qui va jouer donc ce soir, donc dans 40 minutes précisément contre Quevilly-Rouen. Donc ils vont recevoir du côté de Raymond Coppa l'équipe normande. Au niveau de la composition d'équipe, Alexandre Dujeu qui va devoir faire évidemment avec les absences des joueurs qui sont notamment partis du côté de la CAN. Donc dans les buts, on aura Zinga, une défense à 4, Anin, Utunji, Bamba et Rao Lisoa. Ensuite, on aura cette ligne de 5 au milieu de terrain et avec les ailiers, avec Ferrat, Lopi, Capel, Abdelli et El Melali. Et en pointe, l'inévitable Loïs Diony. Alors pour présenter aussi un peu ce match, un match un peu particulier, puisque Quevilly-Rouen vient de changer d'entraîneur cette semaine. Et c'est un homme que connaît bien le SCO qui a succédé à Olivier Échouafny. C'est Jean-Louis Garcia, ancien coach d'Angers entre 2006 et 2011, qui va donc faire son premier match sur le banc normand dans quelques minutes. Donc voilà un petit peu pour vous parler du retour à la compétition du SCO, puisqu'on le rappelle, le SCO n'a pas joué en Coupe de France ce week-end. Au niveau du mercato, Ça s'agite évidemment, puisque la pépite, le meilleur super sub d'Europe, on va dire, Jean-Matteo Baoya est sur le départ. Finalement, il partira du côté de l'Eintracht Francfort, selon les dernières informations de West France. Un départ donc, alors inattendu, on va dire, il y a quelques semaines, mais en tout cas, ça s'est précisé sur les derniers jours, avec également Strasbourg qui était à la charge pour recruter le jeune Angevin. Et c'est donc apparemment l'équipe allemande qui va récupérer le prodige du centre de formation du SCO. Donc voilà un départ qu'il va falloir très vite compenser pour les Angevins qui ne peuvent pas compter sur notamment deux autres joueurs importants de leur 11, c'est Yaya Fofana et Yann Valéry. Alors Yann Valéry qui n'a toujours pas disputé la moindre minute avec la Tunisie, remplaçant le latéral droit tunisien. Et puis pour Yaya Fofana, ça se passe de façon assez mitigée, on va dire, avec trois matchs disputés en intégralité. Ce premier match avec un clean sheet, ce deuxième match avec un but pris sur penalty, et puis hier, on en reparlera peut-être après de ce qui s'est passé à la CAN, mais c'est ce 4-0 infligé par la Guinée équatoriale à la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Et donc Yaya Fofana qui a été quand même dans la tourmente hier soir du côté d'Abidjan. Donc voilà un petit peu pour les dernières infos au niveau des départs, mais aussi au niveau des joueurs qui sont du côté de la CAN. Et puis un petit mot aussi des anciens Angevins. On avait parlé de Mohamed Alichaud qui était passé du côté de Nice. Et puis un autre ancien Angevin, qui était d'ailleurs qui avait fait la prépa, je crois même, avec le SCO cette saison. C'est Paul Bernardoni qui a quitté très rapidement la Turquie après un passage très compliqué là-bas et qui a rebondi du côté d'Yverdon en Suisse. D'ailleurs, il dispute en ce moment même son tout premier match du côté de la Suisse avec pour l'instant Yverdon qui donc l'emporte, qui gagne 1-0 contre Lucerne. Donc voilà Paul Bernardoni qui rebondit du côté de la Suisse.
Il serait sûr d'être payé cette fois-ci.
Et oui, parce que ça a été des gros problèmes pour lui du côté de la Turquie. Messieurs, ce soir, est-ce qu'on sent le match du réveil, puisque deux matchs en 2024 et deux défaites, avec donc la défaite contre Brest en Coupe de France et la défaite contre Bastia il y a deux semaines du coup maintenant, enfin il y a 10 jours. C'est l'heure du rebond un peu, parce qu'on a perdu la première place pour en lieu et place de Auxerre qui nous est passé devant. Qu'est-ce que vous attendez de ce match?
Déjà ce soir il y a le match Auxerre-Grenoble qui peut compter sur le classement du SCO, puisque c'est Auxerre qui est premier contre le troisième Grenoble. Le SCO, je pense, il faut s'attendre à un match qui va être dominé par le SCO. Après, est-ce qu'ils vont réussir à concrétiser, à rebondir un peu sur ces deux défaites? À voir, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils rebondissent ce soir.
Ouais, que Virouan, qui est une équipe qui joue le maintien plutôt du côté de la Ligue 2.
C'est plus que le maintien, là, oui.
C'est contre
la survie, là.
Pour les Rouennais, ouais.
En plus, ils viennent de changer de coach, donc ils sont un peu pas forcément sûrs d'eux. Ils ont peut-être des choses à revoir, donc ce sera pas leur match, leur premier match où ils vont se mettre dedans directement. Donc c'est clairement un match à prendre pour le SCO.
Après, toujours se méfier quand il y a un changement d'entraîneur. Ouais. Il peut avoir ce pseudo déclic.
C'est ça.
Qui peut faire mal.
Ce sursaut d'orgueil.
Ouais.
Et puis surtout, voilà, le SCO qui est pas forcément, qui a pas forcément démarré du 24 de la meilleure des façons, même s'ils ont eu une dizaine de jours pour préparer ce match.
Surtout, enfin, ce soir, c'est logiquement mission 3 points. Mais c'est surtout le match dernier, puisque c'est Auxerre.
Ouais. Ça, c'est le gros match.
Et là, c'est, enfin, sur le calendrier, tu le coches comme.
C'est Auxerre le prochain match. Je crois que c'est Bordeaux, lundi.
J'ai cru voir aussi.
Et bah ça reste un gros match.
Mais
Bordeaux,
en tout cas, enfin c'est ça se rapproche.
Oui, c'est Bordeaux, c'est Bordeaux.
C'est Bordeaux.
C'est ça, c'est Bordeaux lundi prochain à 20h45 du côté de non pas de Chabon Delmas mais du Matmut Atlantic Matmut Atlantic Stadium. Voilà un petit peu pour le SCO, les gars. Peut-être sur le départ de Baoya. Surprise un petit peu. Enfin même si c'était un joueur convoité, on pouvait peut-être s'attendre à un départ plutôt cet été que cet hiver. Et ça vient un petit peu perturber tous les plans autour du score.
Ouais, c'est un peu dommage parce que c'était un super sub, comme tu le dis, et il marquait pratiquement à chaque fois qu'il rentrait. Je crois que c'était le meilleur en
c'est
Europe.
Ça, il y avait une stat, c'était le meilleur super sub parmi les 5 grands championnats, en incluant aussi les deuxièmes divisions.
Et c'est sûr que ça va peut-être laisser un petit vide sur les entrées quand les joueurs font. Quand Alexandre Dujeu va procéder au changement, mais. Je pense que c'est quand même.
Ouais, assez... puis c'est un joueur qui aurait pu prendre en plus, encore plus. Voilà, le SCO va quand même récupérer un billet. Mais c'est vrai que une explosion encore plus forte aurait été peut-être encore plus préférable au SCO. Théo, Cédric, un petit peu déçu de ça?
Il faut de l'argent au club.
Oui, c'est sûr. Préparer la Ligue 1, peut-être.
Ouais, même ne serait-ce que le maintien est quasiment assuré, mais bon. C'est surtout le budget qu'il faudra revoir pour l'année prochaine, même pour la Ligue 2. On sait que, un budget de Ligue 2, c'est beaucoup plus compliqué qu'un budget de la Ligue 1. T'as moins de, en termes de droits télé et tout ça.
T'as moins de marge, quoi.
T'as moins de marge, ouais.
Mais après, ils étaient quand même deuxième budget de Ligue 1, donc je pense qu'ils n'ont pas de soucis à se faire.
De Ligue 2, oui, du coup.
De Ligue 2.
De Ligue 2, oui, mais on sait comment ça se passe, hein. Ça peut aller très vite avec la DNCG. Hein.
Ouais, c'est ça.
On a vu, il y a eu des clubs qui sont passés à l'intersaison cet été, qui sont passés nickel, et là qui se retrouvent interdits cet hiver de recrutement et qui sont même limite menacés de relégation pour économie. Donc,
il en faut pas trop et pas non plus pas assez, quoi. Donc voilà, effectivement, le départ attendu ou pas de Jean-Matteo Baoya. Qui va peut-être pour l'instant pas encore de piste pour le remplacer. On vous tiendra au courant dans les prochaines semaines s'il y a des rumeurs.
Quand Pépé était parti, c'était déjà à l'intersaison
Nicolas Pépé, hein. Ça date.
Ouais, mais
c'était l'intersaison.
C'était l'intersaison aussi. Hein. C'est souvent qu'on vend en intersaison.
Je vous renvoie l'année dernière, tout simplement.
L'année dernière aussi.
Père Boufal et Ounaï, nos deux meilleurs joueurs, alors qu'on est dernier de Ligue 1.
Donc, du coup, c'est normal. Enfin, qu'ils aient été vendus. Moi, je trouve que les joueurs déjà sur le terrain, ils n'étaient pas extraordinaires. Mais moi, je trouvais ça normal qu'ils soient vendus.
Oui, mais c'est quand même. On va dire que le SCO, du coup, ça nous apprend que le SCO n'est pas forcément fermé à vendre des joueurs pendant l'hiver. Alors qu'il y a des clubs comme ça qui disent nous.
Après, il y avait aussi l'effet Coupe du Monde l'année dernière.
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup joué aussi sur la vente. C'est pour ça facteurs, qu'on a eu beaucoup de départs aussi au mercato d'hiver.
Évidemment. Bon, on va passer au basket, Faustin, avec un point sur nos équipes du Maine-et-Loire. Par quoi tu vas commencer?
Je vais commencer par l'UFAB, tout simplement, parce que y a pas eu de match cette semaine pour cause de Coupe de France. Je vais d'ailleurs vous donner les résultats de ces quarts de finale qui ont eu lieu dans un premier temps, c'est le Cercle Jean Mas Bourges, l'équipe B, qui s'est qualifiée face à Villeneuve d'Ascq. On a Basketland face à Saint-Amand. L'Asvel qui s'est qualifié face à Flamme Carolo et Tarbes qui s'est imposé face à Montpellier. Elles reprendront du service samedi contre Basketland, un gros match donc. Maintenant du côté de l'EAB, les Angevins ont retrouvé le chemin de la victoire. Enfin, c'était vendredi contre Évreux. Les joueurs d'Ali Bouziane se sont imposés 82-78. Ils essaieront d'enchaîner une seconde victoire vendredi contre Boulazac. Du côté de Cholet désormais, grosse victoire en Ligue des Champions mercredi dernier, ce qui leur permet de sortir du play-in et de se qualifier pour une deuxième phase de groupe. C'est vrai, j'avais été médisant suite à leur première défaite, c'était une série au meilleur des trois. Ils ont perdu de 20 points le premier match à la Meilleraie. J'avais dit que ça allait être très compliqué pour eux, mais ils l'ont fait, et tant mieux. Dans cette deuxième phase de groupe, ils seront opposés dès demain à Strasbourg. Puis dans leur groupe se trouve aussi Malaga et le club turc de Bursa. Ils ont aussi joué en Betclic Elite et ont eux aussi gagné une nouvelle fois. C'était contre Le Portel sur le score de 89 à 82. Ils sont maintenant 8e au classement avec un bilan net de 10 victoires pour 10 défaites.
Très bien, merci Faustin pour ce petit point basket. Le AB a cette victoire qui fait du bien. Alors, il n'y a pas une fois à le remonter au classement.
Non, ils sont passés. Mais, ils sont plus derniers égalité.
Donc, on se rapproche peut-être des places justement qui ne sont pas relégables.
Bah, ils sont avant-derniers, donc c'est pas non plus.
C'est le format, tu me rappelles, c'est des play-down ou c'est
juste non, il me semble que c'est juste, juste de la relégation.
Okay.
Mais faut qu'il y ait une dynamique, quoi. Faut qu'il y ait une dynamique qui se lance avec au moins 2 victoires d'affilée qui pourront peut-être relancer la machine. Parce qu'en soi, les équipes au-dessus, que ce soit pour les places de même pour grappiller 2, 3, 4 places, c'est que 2 victoires d'écart. Donc c'est pas non plus énorme. Donc il suffit d'une bonne dynamique et ça pourra le faire. Mais faut qu'elle arrive, cette bonne dynamique.
Très bien. Bon, on suivra évidemment les résultats de l'EAB. Semaine prochaine émission spéciale UFAB. A priori, on a encore quelques détails à régler, mais normalement, on devrait recevoir un intervenant ou une intervenante du club de l'UFAB 49. Donc, on sera ravis de les recevoir une fois de plus dans les studios de Radio G. On va passer maintenant au hockey sur glace. Il n'y a pas eu trop de matchs pour les Ducs d'Angers cette semaine. Un seul, c'était la semaine dernière, il y a pile une semaine, contre Grenoble. Le match avait peut-être commencé quand vous étiez en pleine émission, les gars. Donc la victoire 5-2 de Grenoble. Et oui, les Ducs qui quand même ont du mal hein, face aux deux gros mastodontes, Rouen et Grenoble, lors des confrontations directes. Pas d'inquiétude au classement, hein, les Ducs qui conservent leur deuxième place. Avec 9 points de retard sur Rouen, mais 10 points d'avance sur Grenoble. Donc voilà, une défaite pour l'instant sans trop d'incidence au classement. Et puis il y a un match ce soir, Cédric, je crois que nos Angevins affrontent Briançon.
C'est ça. Alors je vais te dire ça tout de suite.
Oui, c'est ça.
J'ai pas eu
donc
le temps de
20h30.
De checker, mais
du coup je vais te le dire. 20h30 à l'Ice Park hein, pour ceux qui sont peut-être déjà sur place ou qui comptent y aller, dépêchez-vous puisque ça commence dans 13 minutes. Donc voilà les Angevins qui vont jouer Briançon ce soir au niveau du programme.
Ah non, ça a déjà commencé, Alex.
Ah ouais.
C'était 20h15.
Ok.
Donc ça fait 2 minutes.
20h30 sur le site de la Ligue Magnus. Donc peut-être que c'est le pré-show ou quelque chose comme ça.
Bah sur Insta.
Ensuite, le 26 janvier, donc dans 3 jours, je crois que ce sera vendredi. Encore une fois, un nouveau match à l'Ice Park avec les Jokers de Sergi Pontoise qui se déplaceront donc du côté d'Angers. Et le 28, donc dimanche, 16h. Le classico, j'ai envie de dire. Rouen qui reçoit les Ducs. On verra si les Angevins peuvent briser la mauvaise dynamique contre les Dragons. Et puis parce que là du coup ça enchaîne hein, 4 matchs en une semaine dans une semaine, donc on sera en pleine émission, il y aura ce match contre Nice.
Surtout que ce week-end c'était la finale de la Coupe de France,
et du coup
entre Grenoble et c'était Dunkerque.
Ok.
J'ai regardé surtout le premier tiers. On voyait clairement Grenoble qui était largement au-dessus et il s'impose finalement 7-4.
Ok. Bon, au final, victoire tranquille de Grenoble.
Pas si tranquille que ça, mais pas non plus surprenant. Par contre, c'est vrai que le parcours de Dunkerque a quand même été beau.
Oui. C'est pas une équipe de Ligue Magnus, on le rappelle.
Non, voilà, ouais. Ils ont quand même sorti pas mal d'équipes de la Magnus, justement, dont Angers. Donc non, ils ont fait un beau parcours, c'est bien, ça amène un peu de fraîcheur aussi à cette coupe, où souvent c'est plutôt les clubs de Magnus qui s'affrontent.
Bien sûr. Voilà un petit peu pour le point sur les Ducs d'Angers. On va passer au Scoambal. Alors le Scoambal qui ne dispute pas de match officiel, évidemment, en raison de cet Euro masculin qui se dispute en ce moment même du côté de l'Allemagne. Il y a eu un petit tournoi amical organisé par la Ligue Nationale de Handball auquel a participé le SCO Handball avec donc 2 matchs à jouer. C'était donc ce week-end. Première défaite, tout d'abord contre Cesson-Rennes, 42 à 30. Et puis, quelques heures plus tard, cette victoire in extremis. Donc 37 à 36 contre l'équipe de Torre La Vega. Donc voilà pour le SCO qui se prépare tranquillement à la reprise de la Pro League. On va parler maintenant un petit peu, on va faire un point sur deux autres équipes. J'en ai parlé dans le sommaire. Ce sont les Loups d'Angers et le SO Cholet. D'abord sur les Loups d'Angers, ça se passe pas forcément de la meilleure des manières. Hein. En tout cas moins bien que les deux années précédentes. Avec pour l'instant 4 victoires pour 5 défaites depuis le début de la saison régulière et une 5e place au classement à égalité actuellement avec le 7e. Donc voilà, match de reprise qui est prévu donc mardi prochain contre Caen pour les Loups d'Angers qui espèrent rebondir pour avoir une bonne place pour les playoffs. Au niveau du SO Cholet, voilà, la situation est un petit peu périlleuse. Hein, les Choletais qui sont très proches d'une relégation du côté de la N2, puisque les Choletais n'ont pas gagné depuis très très longtemps. Ce week-end, ils ont fait match nul 0-0 contre Villefranche-Beaujolais. Mais les Choletais qui sont vraiment en grande difficulté avant-dernier avec donc ce match en plus. Voilà les Choletais qui n'ont pas gagné le moindre match depuis le 3 novembre 2023. Et oui, cette victoire 1-0 contre Gaulle. Ils étaient quand même sur une série en comptant la Coupe de France de 6 défaites consécutives. Donc voilà, toutes compétitions confondues, 5 en championnat. Et donc ce nul qui leur permet quand même de ne pas trop stagner, même si ça paraît quand même très très compliqué. Je vous rappelle donc le classement, Cholet qui est à 17e sur 18 avec 13 points, juste devant Épinal qui a donc un match en moins, et le premier non relégable, puisqu'on le rappelle il y a 6 descentes du côté du championnat de national, le premier non relégable c'est Orléans, qui a 21 points, donc 8 points d'avance sur les Choletais avec 2 matchs en moins. Donc ça va devenir assez compliqué hein, pour les Choletais, les hommes de Vincent Rotureau qui sont en très grande difficulté sur cette saison 2023-2024. Voilà pour l'actualité locale. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter juste avant de passer à la pause musicale?
Ouais, moi j'avais oublié de dire dans mes actualités du côté de Cholet pour les espoirs, il y a Soren Brack, un ancien Angevin qui a été formé à l'EAB, qui a scoré 22 points dans une victoire contre Le Portel. Voilà, c'est un jeune joueur qui a l'âge de Clément, c'est en 2007. Ouais. On verra peut-être un jour apparaître en Betclic Elite ou en Pro B s'il peut peut-être revenir même à ses origines à l'EAB. Voilà.
Ok, bah, effectivement, une belle performance.
Exactement.
Voilà un petit peu pour l'actualité locale. On va tout de suite marquer une courte pause. On va se retrouver après cette pause musicale. On reviendra pour parler de foot, de tennis, de basket, de hand et même de ski alpin. Voilà, tout le tour de l'actualité sportive. On va s'écouter tout de suite PLK et TIFF, et leur titre La Nuit, qui est sorti la semaine dernière. Et on revient juste après.
Quelques pépins dans ma tête, j'ai trouvé quelques copains dans ma quête. Vodka des mélanges bizarres dans mon cap. J'ai remis toute ma soif dans la tête. Ouais, si Dieu veut, on ira au top. Si il veut pas, on restera au check. Tu nous négligeais fort à l'époque. Aujourd'hui, de l'épaule, tu veux faire le check. Mais j'ai pas de mémoire, je me souviens de toi. Tu croyais pas en nous, gros, souviens-toi. Une équipe soudée dans les délits. Moi, déter, j'ai tout créé de mes 10 doigts. Solitaire, ça me fait ni chaud ni froid. Que tu partes, que tu ne m'applaudisses pas. Le lien s'épaisse pour assurer ma descendance. Une baraque, un jardin, une dépendance. Et mes freins, ils aimeraient bien desserrer. Je sais même pas pourquoi encore je reste en France. J'ai plus la nuit.
Cette vie ne permet plus de teuf. T'as son blog, je ne fais plus de rêve. Je t'ai donné tout ce qui me reste. Donc j'aime le rêve.
Plus la nuit.
Tu mets dans l'allée, tu me colles. J'en ai un humain, je m'en vais près des nuages. Silence, le vécu te parle. Je me rappelle, j'étais seul. J'ai avalé mon sol. Je les mélange à l'absolu. Comment de la haine, j'baisse le folie. Là, je t'affonce pas après. J'bosse mon karaté. J'suis
cherche cette solis. Même dans mes rêves, même poule. J'dors plus la nuit, je rôde, je fume, je vide la bouteille. Je ne veux plus tisser de liens en ce moment, je suis d'humeur Sasuke. Et peut-être que je t'oublierai demain, pour l'instant y'a ce manque à toute heure. Et je sais qu'on n'emporte rien, je compte pas passer ma vie à looter. J'arrive en France, je vois c'est fermer l'accueil. Le cœur est rempli, mes verges et la feuille. C'est taf qui parle, il est gros. Autrement dit, faut fermer sa gueule. Je l'ai ouvert que devant le mic. Plus de bien devant le mal. Offrir luxe, haut de moi. Hauteur de plafond avant l'au-delà. Je m'appelle, j'étais seul. J'ai avalé mon somme. Je les mélange à l'absolu. Commente la haine, je baisse folie. Là, je taf, on se parle après. Je bosse mon karaté. Cherche cette solution. Dans mes rêves, elle me folie.
J'rêve plus la nuit.
Cette vie ne permet plus de trêve. Dans son acte, je ne fais plus de rêve. J't'ai donné tout ce qui me reste. Donc je ne rêve plus la nuit. Tu mets de la lait, tu me calmes. J'en allume, j'm'en vais près des nuages. Silence, le vécu te parle. J'm'en rappelle, j'étais seul. J'ai avalé mon somme. J'les mélange à l'absolu. Commente la haine, j'baisse l'folie. Là, j'taffe, on se parle après. J'bosse mon karaté. Cherche cette solution. Dans mes rêves, elle me pollue.
La nuit, très beau titre de PLK et Tiff sur Radio G. On est toujours en direct du 101.5 FM, hein, Radio G. Ou bien vous nous écoutez sur internet avec le site www.radio-g.fr ou encore sur les plateformes d'A+. On est de retour donc dans Génération Sport pour parler de l'actualité internationale maintenant avec après ces points sur les clubs locaux angevins. On va parler un petit peu de foot avec la Coupe de France et également ce qui nous intéresse aussi, c'est la CAN qui se déroule en ce moment même du côté de la Côte d'Ivoire. Alors au niveau de la Coupe de France et des quelques résultats qu'il y a pu y avoir dans ces 16e de finale, on a eu ce gros match du dimanche soir entre Rennes et Marseille. Cette victoire au tir au but des Rennais après un match nul à un partout. Et donc l'OM qui est éliminé au stade des 16e de finale. Sinon, on a eu les qualifications de Le Havre, de Saint-Priest contre Romorantin. Deux équipes de Ligue 1 ont été sorties par des formations de niveau inférieur avec Toulouse, tout simplement le vainqueur en titre, hein, qui s'est incliné 12-11 au tir au but contre Rouen. Ne pas confondre avec Quevilly, Rouen du coup. Rouen qui donc ira en 8e. Et puis Sochaux, et oui, le fameux club qui allait potentiellement quitter le monde professionnel il y a encore quelques mois, qui s'offre un 8e de finale en battant au tir au but également le Stade de Reims. Sinon, pas de problème pour Lille contre le Racing, victoire 1-0. Pas de problème non plus pour Strasbourg contre Clermont, victoire 3-1. Sinon, il y avait un plus ou moins un derby entre Nantes et Laval, deux équipes quand même de la même région. Et contre toute attente, ce sont les Lavallois qui l'ont emporté 1-0. Et ça se passe pas trop bien du côté de l'équipe de Jocelyn Gourvennec.
Ça commence à...
Ça sent le roussi, comme
ça
on dit.
Ça sent le roussi, déjà, qui était pas forcément apprécié ce retour-là.
Exactement.
Au milieu des supporters, ça va.
Il y a des défaites en championnat, il y a donc cette défaite aussi en Coupe de France. Voilà, il va falloir qu'il gagne très prochainement pour pouvoir sauver sa place sur le banc nantais.
Après, j'ai envie de dire, c'est un éternel recommencement à Nantes. Hein.
Oui. Évidemment.
C'est toujours, on sait où, en fait, faut taper.
Des hauts,
mais
des bas. On est dans une boucle.
C'est c'est des hauts et des bas.
Je pense que tant que Kiketa, il sera là,
je pense.
On verra ça. Hein,
il y a quelques temps, ça faisait match nul contre la Juventus de Turin.
Ouais.
Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Bref, dans les autres résultats, Brest s'est imposé 2-1 contre Trélissac, Monaco 3-1 contre Rodez, Valenciennes a sorti le Paris FC 2-1, Nice a gagné à Bordeaux 3-2, le PSG a fait le taf, contre Orléans 4-1, avec un doublé d'Mbappé, et le Puy Envelay qui a sorti Dunkerque, équipe de Ligue 2 si je ne m'abuse. Et puis le vendredi, c'est tout simplement Lyon qui a sorti tranquillement, sans forcer, Bergerac 2-1. Tranquillement, tranquillement, je veux dire, voilà, sans grande marge,
ouais.
Mais tranquillement.
Je te rappelle qu'ils réapprennent à
gagner.
Ouais, ouais,
c'est sûr, donc bon, pas habituel, d'accord.
Tranquillement,
laisse-moi. Il faut lui laisser la.
Voilà, merci. Bergerac, c'est une très grosse équipe, d'accord. Bref, donc voilà un petit peu pour les différents qualifiés. Il y a eu le tirage au sort qui a été fait d'ailleurs. Je vais essayer de retrouver ça.
Ouais.
Sur la Coupe de France, on aura quand même la grosse affiche de ces huitièmes. C'est ce match entre Lille et Lyon. Enfin, Lyon et Lille, puisque ce sera au Groupama Stadium. Ce sera assez intéressant de voir ça. Et puis
on a Rennes-Sochaux du coup qui peut être aussi intéressant.
Exactement, Rennes-Sochaux, Sochaux-Rennes même. Ouais. Ce sera le retour de la Coupe de France en semaine avec donc le mardi 6 février Sochaux-Rennes. Et
PSG-Brest, pourquoi pas un exploit de Brest hein.
Exactement, on aura sinon Feni qui n'a pas encore joué son match contre Montpellier qui une de ces deux équipes jouera contre Nice, Le Puy qui se déplacera qui recevra Laval. Strasbourg, match 100% de Ligue 1, Strasbourg-Le Havre. Saint-Priest qui reçoit Valenciennes. On l'a dit, PSG-Brest. Et puis le jeudi, Rouen qui reçoit Monaco. Voilà pour la Coupe de France. On va...
En tout cas, ça faisait longtemps que le vainqueur de la Coupe de France se faisait sortir aussitôt dans le...
Bah, ça fait un petit moment parce que on se rappelle que Nantes... l'année dernière enchaîne une
deuxième finale, oui.
une finale avec après la victoire. Donc voilà, j'ai pour ma mémoire de supporter un souvenir de la victoire de Lyon en 2012 et d'une défaite au premier tour contre Épinal en 2013. Voilà, je sais pas si ça parle aux gens, mais mais ça arrive quelquefois effectivement le vainqueur qui sort dès le premier tour. Au niveau du foot, il y a toujours cette actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui ont complètement sombré hier. Alors, ils ne sont pas éliminés, loin de là. D'ailleurs, ils sont même en bonne posture. Alors, je ne sais pas en bonne posture. Bon, ça dépendra des résultats des autres équipes. Mais en tout cas, c'est pas du tout fini pour la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Mais... c'est en qualité de meilleur troisième qu'il pourrait rejoindre la huitième de finale et donc jouer un premier groupe. Les Ivoiriens qui ont perdu 4-0 à domicile hier contre la Guinée équatoriale. Voilà, une vraie déflagration dans le pays puisqu'à ce moment-là, on ne pouvait pas s'attendre à ce que la Côte d'Ivoire mérite, termine meilleur troisième. Donc, une grosse performance de la Guinée équatoriale et puis surtout voilà c'est la grosse déconvenue pour la Côte d'Ivoire qui partait quand même favorite de cette compétition étant pays hôte. Et puis hier on a eu une soirée exceptionnelle avec il y avait deux matchs en même temps, donc Cap-Vert Égypte et Mozambique Ghana. Sur les deux matchs il y a eu 4 buts dans le temps additionnel, donc ça a été très très mouvementé et finalement donc le Ghana qui menait 2-0 avant le temps additionnel a perdu 2-2, enfin a fait match nul 2-2 contre le Mozambique et donc le Ghana qui est plus ou moins éliminé, en tout cas qui est en plus mauvaise posture que nos amis ivoiriens. Aujourd'hui c'est le Cameroun qui avait sa place à jouer pour les huitièmes de finale après donc une défaite et un nul. Je vais y arriver, excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment, donc c'est assez compliqué, mais on va y arriver. Donc le Cameroun qui jouait à 18h contre la Gambie, voilà, pour vous expliquer un petit peu, donc cette CAN a pas mal de scénarios un peu fous hein, depuis le début de la compétition. Le Cameroun menait 1-0, ensuite la Gambie enchaîne 2 buts en 13 minutes, donc le Cameroun à ce moment-là est éliminé de la CAN, et puis... 2 buts en 4 minutes de la part des Camerounais qui sont revenus donc dans le temps additionnel grâce à Christopher Wu, le joueur qui est où maintenant lui ? À Rennes.
Rennes.
Le jeu de mots.
Ah, ne fais pas comme...
Ah bah pardon, j'ai pas fait exprès. C'est pas volontaire.
Ne fais pas comme un certain journal sportif qui, dans son article, l'a présenté comme un ancien Lensois.
Il
est ancien en soi, mais bon, généralement, tu dis plutôt le club.
Ça, je voulais pas dire de bêtises. Et donc, j'ai regardé effectivement le Rennais, qui joue pas forcément beaucoup du stade Rennais et but de Karl Toko Ekambi.
Et apparemment, il est passé par Nancy aussi avant.
La Gambie qui avait marqué, et le but a été refusé, qui aurait pu revenir à 3-3.
Donc, il y avait pour vous dire à quel point le scénario est complètement dingue. Dans cette CAN, je regarde s'il n'y a pas d'ancien Angevin qui a pu jouer, mais voilà le
Sénégal,
le Cameroun, donc le Sénégal qui l'emporte 2-0 tranquillement contre la Guinée. On a pour l'instant donc le Sénégal qui termine premier de sa poule, le Cameroun deuxième du coup, et la Guinée troisième qui sera à coup sûr en huitième de finale également. Voilà un petit peu. Déjà aussi, je vais vous présenter quand même les deux matchs ce soir qui sont aussi très très attendus, avec notamment un Mauritanie-Algérie qui sent la poudre, puisque le vainqueur de ce match peut se qualifier, surtout éliminer l'une et l'autre. Et également, il y a ce match entre l'Angola et le Burkina Faso. Et simplement, est-ce que vous suivez justement un peu cette CAN un peu ou pas? Alors, je sais que c'est sur des chaînes payantes, donc oui. Tout le monde n'a pas forcément les droits, mais est-ce que vous suivez quand même au moins les résultats, les résumés, des choses comme ça? Ou ça vous intéresse pas trop, ou c'est pas grave?
Alors, je suis ça de loin, parce que forcément, les horaires, par rapport à mon travail, c'est pas forcément les plus compatibles. Après, je suis un petit peu sur Instagram parce que je connais une personne qui a été là-bas, donc j'ai pu suivre un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans certains stades, tout ça. Mais c'est vrai que, enfin, c'est une compétition que je suis beaucoup moins que les autres. Après, c'est, je pense, le côté aussi, c'est un football que je connais moins.
Ok.
Du coup, non, forcément, moins de temps à lui consacrer. Quoi.
Les gars, est-ce que vous suivez un peu vous?
C'est vrai que je regarde pas du tout les matchs même, mais je regarde quand même beaucoup les résultats parce que j'ai plein de potes qui sont je sais pas, j'ai un pote sénégalais notamment qui est à fond là-dedans, il y a deux ans quand ils avaient gagné c'était le feu chez lui, et du coup je suis pour le Sénégal, mais vraiment c'est ça qui me fait suivre la compétition voilà, c'est marrant de voir comment ça s'embrouille entre potes pour...
C'est ça qui est intéressant, ouais. En France, la CAN, quand même, a une saveur particulière, parce qu'on a tous des amis qui ont des origines, que ça soit, des pays du Maghreb ou autres. Donc, c'est toujours très intéressant.
Historiquement, on a beaucoup de joueurs africains qui évoluaient dans le...
On s'intéresse toujours aux équipes qui ont pas mal de joueurs européens, et notamment au SCO, avec, Yaya Fofana qui... Moi, je trouve que Yafona, du coup, ça représente bien sa saison avec le SCO. C'est-à-dire qu'il y a deux matchs où il est plutôt bon. Et puis, il y a un match où il peut craquer totalement et faire totalement quoi, je sais pas. Mais...
C'est les combientièmes meilleurs troisièmes qui passent?
Parce qu'il y en a quatre.
Ah oui, je me disais aussi.
Il y en a quatre pour l'instant.
Et donc, Côte d'Ivoire qui est même pas sûre de passer encore.
Pas encore, mais ça pouvait être officiel si la Gambie notamment gagnait contre le Cameroun. Ouais. Pour l'instant, donc, il y a que trois groupes qui sont terminés. Dans les troisièmes, on a donc la Côte d'Ivoire qui a 3 points, mais une défense de but pas vraiment dingue, avec du coup cette défaite 4-0 qui fait qu'ils ont moins 3. Et on a le Ghana hier qui a complètement choke son match et qui n'a que 2 points. Faut savoir que l'Égypte se qualifie à la deuxième place avec seulement 3 points, avec 3 nuls. Donc la Guinée qui a assuré puisqu'ils sont...
Ouais.
Ils ont 4 points.
Ils sont à 4, oui.
Ça va être compliqué.
Et à moins 1, oui.
Et l'Algérie peut, s'ils font nul, se qualifier. Donc voilà, il faut que l'Algérie ne perde pas s'ils veulent se qualifier.
Et puisqu'ils passeraient à 5 points, du coup.
S'ils gagnent, ils passent à 5 points.
Et sinon, ils passent à 3.
Ils passent à 3 et du coup, leur différence de but est favorable. Globalement, si vous voulez voir les Ivoiriens en 8e de finale, il faudrait notamment que le Maroc batte la Zambie. Ce qui reste quand même un scénario raisonnable. Et puis après, voilà.
À part si la Tanzanie gagne contre le Congo.
Ouais, mais du coup, le Congo qui aurait que 2 points si la Tanzanie gagne.
Ou s'il y a nul.
Il faut simplement ça, la victoire du Maroc contre la Zambie, ou alors une défaite forte de la Namibie, avec dans le même temps un résultat négatif de la Tunisie. Bref.
Ouais, bon, c'est un peu compliqué.
C'est un vrai casse-tête. Je voulais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais voilà pour cette CAN qui est quand même très intéressante. À noter qu'il y a aussi la Coupe d'Asie des Nations en ce moment, avec, les huitièmes qui vont démarrer dans quelques instants. Il y a des qualifications historiques, la Syrie ou encore la Palestine qui sont qualifiées aujourd'hui même. Donc voilà, il y a quand même deux compétitions internationales en pleine saison. Ça perturbe, on sait, un peu quelques clubs de Ligue 1 avec
c'est surtout la CAN qui
perturbe, mais il y a aussi il y a aussi donc les Japonais de Nakamura et Ito de Reims, il y a Kangin Lee de PSG,
à Monaco aussi.
Donc à Montpellier il y a Altamari, des choses comme ça. Donc voilà. On fera un point, on regardera évidemment puisque le match du SCO commence dans 5 minutes. On gardera un œil évidemment sur ce match contre Quevilly-Royan et on vous tient au courant si évidemment il y a un petit but du côté du SCO. Faustin, je vais passer à toi. On va parler un petit peu de NBA avec les différentes actualités autour du championnat américain. J'imagine que tu vas nous parler de ce qui s'est passé hier. 70 points. 70.
Voilà, c'était un match des Spurs. Cependant, on va pas parler tant que ça de Wemby, malgré ses 33 points. On va plutôt parler des 70 points de Joel Embiid. Vous avez bien entendu, 70 points. C'est évidemment son record personnel, mais aussi le record de la franchise. Il dépasse les 68 points d'un certain Will Chamberlain, qui est le recordman du nombre de points dans un match, sauf que c'était pas sous la franchise des Sixers de Philadelphie. Il a marqué 100 points sous le maillot des Golden State Warriors. Il devient le neuvième joueur de l'histoire à scorer 70 points dans un match. Et cette performance incroyable intervient 18 ans jour pour jour après les 81 points de Kobe. C'était face aux Toronto Raptors. C'est je sais pas ce que les joueurs ont avec le 22 janvier, parce que dans la même soirée on a aussi Karl Anthony Towns qui avait marqué 60 points.
Ah, rien que ça. Ouais.
Voilà, 60 points. Mais
le 22 janvier, faut regarder.
Y a, ouais, je sais pas. Il y a un truc. Les dieux du basket jettent des sorts et rendent les joueurs meilleurs. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que Karl Anthony Towns qui met ses 60 points et alors que la fin du match est serrée, son coach le sort. Et il ne dispute pas la fin du match qui était serré et son équipe perd le match.
Ah putain.
Donc c'est un peu terrible ce qui s'est passé pour lui. Sinon NBA pour Wembanyama, parce qu'on va quand même parler de lui, c'était l'heure des retrouvailles avec son ancien coéquipier Bilal Koulibaly dimanche dernier, parce qu'il y avait le match entre les Spurs et les Wizards et les deux joueurs ont sorti une bonne prestation, 24 points, 8 rebonds et 6 comptes pour Victor et 14 points, 4 rebonds avec un 2 sur 2 à 3 points pour Bilal. Au final c'est les Spurs qui finissent vainqueurs de ce match avec à la fin une belle accolade et un échange de maillots entre les deux joueurs, sachant qu'en plus, peu de temps après, parce que la trade deadline des transferts approche en NBA, Bilal Koulibaly a été désigné comme le seul joueur intransférable du côté des Wizards de Washington. Ça laisse un très bon présage pour lui, avec une franchise qui compte sûrement le développer, peut-être construire quelque chose autour de lui.
Très bien. Et donc, les dernières infos de NBA. Merci à toi, Faustin, pour tout ça. Et ouais, c'est vrai que cette performance, c'est incroyable.
Ouais, 70 points, c'est... On a vu deux fois 71 points la saison dernière. C'était Donovan Mitchell et Damien Lillard. C'était complètement fou. Et là, en revoir 70 une saison après, personne ne s'y attendait, à mon avis. C'est la neuvième fois quand même dans l'histoire de la NBA. Donc, en deux ans, on a vécu 3 sur 9. C'est sympa.
C'est énorme. Voilà pour ce point NBA. On va parler maintenant du côté. On va partir maintenant du côté de l'Australie, de Melbourne et de cette Open d'Australie, ce premier grand chelem de la saison de tennis qui se déroule en ce moment même. Les Français, et oui, sur les deux dernières années,
on s'est foutu
un peu de la gueule des Français. C'est normal. Après tout, ils ne gagnaient pas. On les voyait très peu, ne serait-ce qu'au troisième tour. C'était déjà très compliqué de les voir dans un troisième tour. Et là, on en a vu en deuxième semaine. Et oui, messieurs, dames, en huitième de finale. Chez les messieurs, on a eu Adrien Manarino. Assez incroyable. Trois matchs et trois victoires en 5-7. Notamment contre Wawrinka, contre Mounard et contre Shelton. Et c'est vrai que c'est un joueur qui affiche un niveau assez exceptionnel en ce moment. Probablement le meilleur de sa carrière. Et qui, par contre, en huitième de finale, s'est fait balader face à Djokovic. 6-0, 6-0, 6-3. Voilà, il a fallu attendre le troisième set pour qu'il remporte un jeu. Voilà pour Adrien Manarino, donc le premier français à la ATP. Et puis la belle surprise, le jeune Arthur Cazaux, qui a donc lui aussi pu disputer un huitième de finale. Alors il a gagné en 5-7 son premier match contre le Serbe Djere. Et puis surtout la grosse surprise, c'est au deuxième tour face au Danois Rune, tête de série numéro 8. Et il l'a emporté en 4-7, 7-6, 6-4, 4-6, 6-3. Au troisième tour, bah, il sort aussi un gros morceau, Griegspoor, quand même 28 à l'ATP, 6-3, 6-3, 6-1, donc voilà, expéditif. Et puis bon, au niveau du huitième de finale, il n'y a pas eu de suspense, même si ça a été quand même serré au niveau des 3-7, victoire donc du Polonais Urkacz, 7-6, 7-6, 6-4. Au niveau des autres cadors du circuit ATP, on a beaucoup de favoris qui sont au rendez-vous de ce tournoi, avec les quarts de finale qui opposaient Djokovic à Fritz, victoire du Serbe, Yannick Sinner à Rublev, victoire de l'Italien en 3-7, et puis donc voilà, on aura cette demi-finale entre Djokovic et Sinner, et puis on a aussi deux autres gros matchs, deux autres quarts de finale. On l'a attendu donc avec Urkacz qui jouera contre Medvedev et Alexander Zverev qui sera opposé à Alcaraz. Et puis au niveau des filles, on a eu une autre française qui a pu jouer en huitième de finale, c'était Océane Dodin. Océane Dodin qui jouait d'ailleurs au tour précédent contre l'ancienne Angevine Clara Burel, qu'on connaît bien ici. Clara Burel qui avait sorti quand même la tête de série numéro 5, Pegula, en 2-7, 6-4, 6-2, et qui a donc retrouvé l'autre française au niveau du troisième tour. Et donc, c'est Océane Dodin qui s'est imposée à ce moment-là, 6-2, 6-4. La française qui a pareil, un peu comme Manarino, n'a pas forcément eu de suspense dans son match. Défaite 6-0, 6-3 contre Zeng. Au niveau du tableau féminin, on a toujours aussi les favorites qui sont là, avec Coco Gauff et Sabalenka qui vont se retrouver en demi-finale. Et puis dans l'autre partie de tableau, les quarts de finale qui n'ont pas encore eu lieu entre Noskova et Yastremska, et Kalinskaya et Zeng, des joueuses un petit peu plus anonymes, je dirais, avec tout le respect qu'on leur doit, qui vont donc s'affronter notamment cette nuit. Voilà pour le point tennis, messieurs.
Quart de finale quand même chez les femmes en double aussi.
Quart de finale chez les femmes en double.
Avec après, la paire Garcia-Mladenovic.
Mladenovic, oui.
Qui vont quand même en quart de finale. Ça.
Bah après, le tournoi commence en huitième. Donc en soi, elles ont gagné qu'un match.
Ouais, mais bon, tu vois, enfin, généralement, pareil, sur les doubles, les Françaises, on les voit pas trop.
Donc voilà, oui, effectivement, elles ont perdu jours. Aujourd'hui contre Kishenok et Ostapenko. 7-6-6-4. Mais ouais, est-ce que c'est un Open d'Australie encourageant? Alors, je ne nous attends pas, évidemment. On va se calmer. On va pas gagner un grand chelem tout de suite. Mais voilà, une petite révélation, Caso, la forme du moment pour Manarino. Alors, Burel et Dodin qui sont en forme aussi.
La petite surprise.
Est-ce qu'on
oui,
peut avoir une belle saison?
La petite surprise, peut-être. La personne, je pense, le voyait. Ça, c'est sûr. Après, pour les autres, le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'on les voit bien partir et quand même aller assez loin. Sauf que derrière, ça suit pas sur les autres grands chelems ou même en saison. Donc, on va dire que ça peut être encourageant pour cette saison. Mais bon, c'est comme avec les Français, comme à chaque fois. On sait que ça peut faire le pétard mouillé, ça fait une belle ouverture, et puis le soufflet descend très vite, quoi.
Bah, il va falloir que Arthur Cazot donc confirme effectivement sur les prochaines années. Oui, les gars, vous êtes optimistes ou pas là-dessus?
Bah, c'est vrai que c'est quand même assez dur d'avoir d'être régulier dans le tennis, et je vois bien pour le coup Adrien Manarino s'en sortir, arriver à sortir des bonnes paires sur les prochains grands chelems. Cependant, je vois Arthur Cazot avec plus de mal, ça a été une surprise, un peu comme l'a été Hugo Gaston, c'était il y a deux ans ou
ouais,
trois ans.
Ouais, trois ans, ça remonte, ouais.
Trois ans, voilà. C'est possible, hein, mais c'est possible aussi qu'il s'en sorte, qu'il monte et qu'il devienne régulier. Et c'est tout ce qu'on espère.
Évidemment.
Je vois peut-être plus de continuité chez les femmes que chez les hommes, parce que chez les femmes, c'est Clara Burel, Océane Dodin, c'est des filles qu'on a déjà vues. Enfin, peut-être pas aussi haut sur des grands chelems, mais on les a déjà vues, par exemple, sur des tournois ATP, faire des bonnes performances. Après, chez les garçons, Manarino, il commence mine de rien à être vieux, et enfin, 35 ans, il atteint un peu le sommet de sa carrière, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'il arrivera encore une année à faire des bonnes performances, mais dans la continuité, je pense que ça va être un peu compliqué. Et puis pour des jeunes comme Arthur Cazot. Enfin, on aura peut-être d'autres noms qui vont sortir d'ici là. Et bah, je pense que ça sera surtout des exploits sur des grands chelems que réussir à, dans la continuité, enfin comme l'ont fait les plus grands. Quoi.
Ouais, puis cette année, je sais pas réellement comment va être le circuit, mais en tout cas, quand on va arriver dans les périodes où on va commencer à jouer sur la terre battue, on sait qu'il y aura Roland Garros, mais derrière, il y aura déjà la préparation aussi des JO qui va arriver. Il y aura cette étape sur pelouse avec Wimbledon juste avant les JO, mais je pense qu'on peut voir des Français faire des petits coups comme ça dans des Mastermind.
Et pourquoi pas aux JO?
Et voilà, après pour les JO, ça peut être jouable. Mais voilà, c'est parce que je pense qu'il y en a, enfin les grosses têtes vont peut-être faire moins de matchs de préparation sur des tournois, on va dire un peu mineurs.
Ça rajoute un gros tournoi quand même. Voilà. Dans le calendrier.
Bon, ça, c'est vrai.
Donc il y a peut-être quelque chose à jouer.
Et puis, après, donc, c'est un bon moyen aussi d'aller chercher de l'expérience.
On va dire que si on rajoute les JO en plus des 4 grands chelems, ça rajoute... Enfin voilà, sur les 5 gros rendez-vous de l'année, il y a quand même 2 rendez-vous qui sont en France. Hein, ouais. Donc après, là, c'est toujours un terrain compliqué. Enfin, un terrain spécifique, la terre battue. Donc à voir si certains Français...
Et le format de la compétition olympique aussi est différent.
Ouais. Bon, voilà pour le point tennis. On va parler d'autres très bonnes performances françaises avec...
Est-ce que... Oui. Avant, je peux t'interrompre avec une breaking news.
Breaking
NBA.
News. Oh là là.
C'est rare et c'est les Milwaukee Bucks qui viennent de virer leur coach.
Oh.
Adrian Griffin qui vient d'être viré avec des rumeurs comme quoi Doc Rivers, un célèbre coach de NBA, quand même qui serait mis à la place. Voilà.
On sent que cette news t'a impacté, enfin t'as surprise.
Je m'y attendais pas.
Donc bah oui, tu fais très bien de le dire.
Voilà. Pour continuer sur les breaking news, il y a déjà un partout entre Grenoble et Auxerre. Auxerre qui a ouvert la marque au bout de 3 minutes et c'est Grenoble qui égalise à la 6e minute.
Bon, bah voilà, écoute,
ça a démarré sur les chapeaux de roue.
On est vraiment dans les breaking parce que pareil, à la super ouverture des Ducs, quoi.
Ah. Ouverture du score pour les Ducs d'Angers. J'ai une autre breaking news. Il y a 0-0 entre le SCO et
tu vois, t'as pas choisi le bon sport là ce soir. Hein,
Si, plus ou moins, hein, mais peut-être qu'il y aura des buts, mais on verra. Bon, on va faire un point donc, comme je disais, sur les Français qui performent avec notamment le biathlon et le ski alpin. D'abord le point sur le biathlon. Les deux Françaises, Julia Simon et Lou Jean Monod, qui ont fait un très beau doublé sur la Mastart ce week-end. Voilà, c'est Julia Simon qui l'a emporté. Donc du côté de Antols Anter Selva en Italie et elle termine donc première devant sa compatriote. Oui.
Elles ont fait aussi deuxième et troisième sur l'individuel, je crois bien.
Très bien.
Deux ou trois jours auparavant et c'est aussi Quentin Fillon-Maillet qui fait une belle quatrième.
C'est ce que j'allais y venir, mais c'est très bien que tu en parles. Quentin Fillon-Maillet qui a donc exactement comme tu disais fait une quatrième place avec quand même un 20/20 au tir.
Oui.
Et il a craqué au niveau de la course, c'est ça?
Ouais, et puis surtout il a été hué par le public et il a poussé un petit coup de gueule.
Exactement.
Après sa course et ça a pas... Enfin voilà, ça fait un peu débat dans le monde du biathlon parce que
c'est vrai que c'est pas courant quand même ça dans le milieu du biathlon.
Bah, il a gueulé ouais pas mal.
En fait c'est parce que il dit que le biathlon c'est un monde très dur et que il y a 2 ans peut-être qu'il était sur le toit du monde et que tout le monde l'encensait mais là c'est totalement l'inverse où il reçoit énormément de critiques et d'insultes et il a un peu du mal à vivre ça et il voulait faire comprendre que c'était vraiment un sport très compliqué et que s'il souhaitait continuer à critiquer, qu'il vienne sur les skis et pour voir ce que ça donne de tirer sur des cibles à 50 mètres. Enfin voilà,
l'argument c'est facile.
Son coup de gueule.
Parce que bon, c'est comme on peut critiquer pareil les joueurs de foot. Pourtant on est moins bons qu'eux.
Ouais, mais là, je pense que vraiment le biathlon, c'est beaucoup de l'aspect mental et de la dynamique.
Oui, mais je veux dire, l'argument de venez faire à ma place,
ça marche pour tous les sports.
T'es exposé médiatiquement.
Oui, c'est sûr.
Et je dis pas que ceux qui l'insultent ont raison. Je dis juste que cet argumentaire-là est pas. Tu fermes les écoutilles. Ouais. Tu n'écoutes pas les gens qui parlent mal et puis voilà.
Tout dépend qui te juge et
pour moi ça montre peut-être un mental un peu fébrile.
Enfin, ouais, oui, aussi,
je pense que ça a dû le toucher très rapidement.
En tout cas, eux, ils ont dû m'entendre parce que les Ducs, ils viennent de marquer le deuxième.
Oh là là. Ah bah, furie.
Déjà 2-0 donc pour les Ducs d'Angers contre Briançon, c'est ça?
Oui. Contre Briançon, ouais.
Les Diables de Briançon.
Oui.
Il me ça semble. Doit être ça, ouais.
Oui, c'est ça.
Bon, et puis sinon, au niveau, on reste dans les sports d'hiver avec le doublé historique en ski alpin de Cyprien Sarrazin, qui a remporté les deux descentes à Kitzbühel. Alors je me prononce évidemment très mal, évidemment je ne parle pas allemand. C'était du côté donc de l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises, la mythique Streif, comme on dit. Le français, hein, Cyprien Sarrazin, qui a remporté donc deux fois ses descentes, donc vendredi et samedi. Et c'est tout simplement un résultat historique, hein, puisque c'est la première fois depuis Luc Alphan en 95. C'est sa cinquième victoire en Coupe du Monde. Et donc sa quatrième de cette année, sa troisième en descente. C'est un Français qui compte beaucoup, du coup, dans cette descente française. Et donc, voilà, un résultat qui est quand même assez marquant du côté du ski alpin.
Bah, puis ça fait du bien au ski français, surtout au ski masculin, avec la blessure de Pinturo.
Qui a été opéré, d'ailleurs, récemment.
Mais c'est vrai que enfin, c'est plus lui qu'on attendait sur les hauts des podiums, et c'est bien, au moins il y a
la relève.
Il y a la relève, il ouais. y a du monde pour prendre la suite, quoi.
Exactement. On va faire un point sur l'Euro de handball avec les Français qui performent, qui sont tout simplement encore invaincus dans la compétition. Ils avaient quand même concédé un nul il y a à peu près une semaine contre la Suisse, qui était un petit peu inquiétant. Mais au final, le troisième match de premier tour s'est bien terminé contre l'Allemagne. Derrière donc les Français qui se sont qualifiés à la première place et lors du second tour trois matchs et trois victoires plus ou moins tranquilles. Déjà une victoire 34-32 contre la Croatie, une victoire 39-32 contre l'Islande, et hier victoire 33-28 malgré une bonne équipe autrichienne qui a perturbé les Bleus. Et c'est un peu la vraie surprise de cet Euro, l'équipe d'Autriche qui surprend un peu tout le monde et qui avait notamment éliminé l'Espagne au premier tour. Donc les Bleus qui sont assurés d'être en demi-finale, premier de leur groupe, et donc ce dernier match qui aura lieu contre la Hongrie demain à 18h. À noter que les Bleus affronteront soit le Danemark qui vient de perdre aujourd'hui contre la Slovénie, petit tremblement de terre, j'ai envie de dire, puisque le Danemark perd très peu, et donc ce sera la Suède ou la Slovénie a priori, même si la Suède est directement qualifiée, et mais en tout cas si les Suédois l'emportent, ils peuvent peut-être, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, ils peuvent peut-être donc passer premier. Mais a priori, les Français qui retrouveront encore une fois la Suède en demi-finale. Et voilà, bon, on retrouve un peu toujours les mêmes. Pour ceux qui ne suivent pas trop l'handball, je m'excuse, mais il n'y a pas beaucoup de diversité sur les derniers carrés à chaque fois. Il y a France, pas l'Espagne cette année, mais souvent c'est France, Danemark, Suède. Hein, sur, c'était ouais. Déjà c'est tout s'est passé déjà chez les femmes, chez les hommes au Mondial et à l'Euro dernier, je crois que c'était un résultat un peu similaire.
Qu'ils fassent un championnat entre eux, ça sera plus simple. Hein.
Ils ont même créé la Golden League, ils ont vraiment créé. Ils l'ont arrêté, je crois, mais ils l'ont vraiment créé pour faire des matchs amicaux.
Et à noter que du coup, la France s'est qualifiée aussi directement pour
le Mondial 2025.
Le Mondial 2025, du coup, ça va libérer du temps pour préparer les JO. Ouais. On parle d'un stage.
Ils ont des compétitions.
Et d'un match de préparation.
Mais en tout cas, voilà. Alors. Effectivement, on a les trois favoris qui sont au rendez-vous des demi-finales, mais on aura peut-être une surprise avec peut-être l'Autriche qui peut encore se qualifier, ou encore la Hongrie ou l'Allemagne. Je vois qu'il est déjà 20h59, on va libérer la place à nos collègues de Imaginaire, et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une émission spéciale UFAB, et puis on vous dit à la semaine prochaine.